Cube Radio. Marie Montpetit. Elle connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Marie Montpetit.
Alors, c'est cette fin de semaine que s'ouvre la 18e édition du Sommet de la francophonie en Tunisie, à Djerba. Puis pour en parler, on rejoint Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire pour Le Journal, où il suit les représentants du gouvernement, dont Martine Biron, la nouvelle ministre des Relations internationales, et le premier ministre du Québec, François Legault, qui arrive tout juste aujourd'hui. Allô, Marc-André.
Bonsoir.
Bonsoir. C'est vrai qu'il est tard pour toi.
Oui, déjà un peu plus. C'est le soir. François Legault est effectivement arrivé donc en Tunisie en fin d'après-midi, vendredi, heure de Djerba, puisque c'est là que se déroule le sommet de la francophonie. Et très rapidement, il a eu donc deux premières rencontre bilatérale, une première avec un homme d'affaires tunisien qui fabrique des câbles électriques et des composants de véhicules. Il a aussi rencontré le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il termine donc avec une rencontre aujourd'hui avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, donc Louise Mouchi-Kiwabo.
Marc-André, vous avez appris aussi que le premier ministre Legault va rencontrer le controversé président tunisien.
Tout à fait. Donc, ce que M. Legault nous a dit, c'est que c'est le président tunisien qui a demandé à rencontrer François Legault. Mais hier, on a justement abordé toute la question du climat politique en Tunisie avec la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Martine Biron.
On avait senti un certain malaise dans la réponse qu'elle vous a donnée. D'ailleurs.
Exact. On sentait qu'elle marchait sur des œufs. Pour situer les gens qui sont évidemment moins familiers avec la situation politique en Tunisie, le président, donc Kais Saied, s'est accaparé de l'ensemble des pouvoirs en juillet 2021. Il a par la suite procédé à la dissolution de son Parlement. C'est d'ailleurs ce qui a amené le gouvernement Trudeau à faire des tractations pour tenter de faire reporter une troisième fois le sommet de la francophonie qui a lieu donc ce week-end en Tunisie. Bon, en vain, c'est maintenant que ça se passe. Et bon, François Legault a tenté de diminuer la portée de l'affaire en disant, bon, ben comme pays hôte, c'est qu'il doit vouloir rencontrer le plus de chefs d'État possible. Mais il reste que M. Legault entend profiter de cette rencontre-là pour faire part au président tunisien, donc des préoccupations qui sont partagées, comme je le disais, bien, par le Canada, mais aussi par le Québec, depuis que le président Saïd s'est attribué l'ensemble des pouvoirs, ce qui cause énormément de tensions politiques ici en Tunisie. Ce qui a encouragé le Québec à faire le voyage, puisque comme je l'écrivais dans le journal ce matin, le Québec a failli bouder la Tunisie qui reçoit ce sommet, c'est qu'il y a des élections législatives qui sont prévues ici en Tunisie le 17 décembre. Donc ça rassure M. Legault. Et évidemment, bien, la démocratie, c'est une valeur importante pour le Québec. Et M. Legault entend bien le rappeler donc à son homologue tunisien.
On peut écouter sa réponse d'ailleurs.
Vous n'éprouvez pas un certain malaise à rencontrer le président tunisien dans le contexte dont on a parlé?
Bien, il faut. Martine avait les bons mots hier en disant qu'il faut laisser la chance au coureur. Il y avait des accords profonds entre le président et le premier ministre. C'était rendu dysfonctionnel. Bon, là, il y a une élection le 17 décembre, quand même pas dans 5 ans, c'est dans quelques semaines. Donc, je pense qu'il faut laisser la chance au coureur.
Mais Marc-André, ça sert à quoi ce genre de sommet? T'sais, parce qu'il y a toutes sortes de sommets, il y a toutes sortes de questions qui se posent aussi, entre autres sur la COP. Là, on voyait cette semaine, il y a plein de gens qui se demandent, ça sert-il vraiment à quelque chose? Le sommet de la francophonie, le Québec, il va y rechercher quoi? Il en retire quoi? Il arrive avec quelle priorité exactement?
Bien, ce que M. Legault nous a expliqué tout à l'heure, c'est que pour lui, la promotion de la francophonie, de la langue française, ça demeure le premier objectif de sa participation, comme pour à peu près l'ensemble de la trentaine de chefs d'État parmi les 88-89 délégations qui font partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais François Legault se donne aussi un deuxième
objectif. Attends, mais ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire quoi en faire une priorité concrètement? Est-ce qu'il y a des... des rencontres qui sont prévues à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des partenariats, des objectifs? Tu sais, concrètement, ça veut dire quoi que ce soit une priorité?
Oui, ben, comme tout à l'heure, donc M. Legault rencontrait la secrétaire générale de l'OIF et un sujet qu'il nous a dit qu'il entendait aborder avec elle, par exemple, c'est le numérique. Donc, si on parle d'enjeux, c'est ça. Donc, M. Legault aimerait que la France, le Québec, la Belgique, la Suisse, les pays, a-t-il dit, qui sont un peu plus riches, qui mettent la main à la pâte pour développer davantage de contenu francophone. On sait que pour M. Legault, comme pour plusieurs au Québec, il y a une préoccupation face au déclin du français. Donc, quand on parle de promotion là, de la langue française, c'est ça. D'ailleurs, un des engagements que la CAQ a pris pendant la campagne, c'est ce que M. Legault nous a rappelé tout à l'heure, c'était d'investir 65 millions dans la production de contenu jeunesse québécois destiné à la plateforme numérique de Télé-Québec. Alors, est-ce que ça peut inspirer d'autres États? Bien, c'est ce genre d'échange que les chefs d'État entre eux peuvent avoir. Mais ce qui intéresse aussi François Legault, c'est la dimension économique. Comme tu le sais, le gouvernement Legault a réorienté complètement ses relations internationales avec un objectif vraiment économique de faire des affaires, de développer des opportunités d'affaires. Quelles seront les retombées concrètes pour répondre plus précisément à ta question? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Il y a des annonces qui sont prévues au cours de la fin de semaine de la part du gouvernement Legault. On verra, suite aux rencontres bilatérales qui ne sont pas encore toutes confirmées ni annoncées, qu'est-ce qui va en ressortir. Mais il reste que les enjeux sont importants. Bon, ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de sommet de la francophonie. Quelles seront les retombées réelles? On pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'il y a des États qui sont membres de l'OIF qui ont raison de l'être? Je voyais la Corée, entre autres, qui a un kiosque où tout est écrit en anglais. C'est peut-être pas l'endroit au monde où il y a le plus de francophones, on s'entend. Donc, il y a aussi un grand questionnement sur la gouvernance au sein de l'OIF. Et là-dessus, M. Legault considère que la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, a fait du bon travail. Il y a un ménage qui s'imposait, entre autres, suite au départ de sa prédécesseure, Michael Jean. Donc, il y a un ménage qui a été fait, mais il y a encore du travail pour améliorer la gouvernance de l'OIF.
Puis maintenir la crédibilité aussi de sa raison d'être, dans le fond. Est-ce que c'est pas curieux, Marc-André, que tu me dises, dans le fond, que l'ensemble des rencontres bilatérales sont pas convenues, sont pas toutes statuées? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Est-ce que c'est parce qu'on se retrouve après 2 ans où il n'y a pas eu ce genre de sommet? Ou c'est pas un peu de dernière minute? Ça sent-tu l'improvisation ou ils sont bien en selle, nos élus?
Par expérience, je crois que généralement, ils ont des idées assez précises des rencontres bilatérales qui devraient avoir lieu, mais je pense qu'il est de l'habitude du gouvernement, du ministère des Relations internationales, de se donner une petite gêne jusqu'à ce que les rencontres soient bel et bien confirmées, d'autant plus que ça peut changer. Là. Il se passe quand même beaucoup de choses là, en marge de ces sommets-là. Les horaires peuvent être sujets à changement, mais une des rencontres bilatérales qu'on va surveiller au cours du week-end, c'est celle entre M. Legault et Justin Trudeau. Celle-là non plus n'est pas confirmée, mais étant donné que de part et d'autre, on nous dit que c'est une forte possibilité, on s'attend à ce qu'elle ait lieu. Donc, ce sera la première fois que François Legault, depuis sa réélection, va rencontrer Justin Trudeau. Il nous a dit tout à l'heure que s'il a le temps de le faire, parce qu'on s'attend à une rencontre quand même assez courte, là, qu'il va lui parler des transferts en santé. Hein. On sait que les provinces canadiennes...
on peut penser qu'effectivement, ça va faire partie des priorités des échanges. Ça, et peut-être les seuils d'immigration?
Peut-être aussi, et ça, c'est intéressant que tu nous parles des seuils d'immigration, puisque la ministre de l'Immigration, hier, qui dans un tweet disait la solution au déclin du français, c'est l'immigration. On a relancé M. Legault tout à l'heure là-dessus, puis il nous a dit oui, mais dans la mesure où elle est francophone. Effectivement, la question des seuils, c'est une des pommes de discorde entre François Legault et Justin Trudeau, mais je pense que là-dessus, chacun reste campé sur ses positions. Maintenant, il faudra voir ce qui va ressortir là aussi de cette rencontre entre M. Legault et M. Trudeau.
Donc, une rencontre courte, mais que l'on souhaite intense et productive et efficace.
Oui, parce qu'il prévoit se rencontrer plus longuement en décembre. En tout cas, c'est ce qu'on nous a indiqué dans un brefage technique avant de s'envoler vers la Tunisie.
À la suite de la session parlementaire, probablement.
Ouais.
Dis-moi, Marc-André, en terminant, François Legault aussi a été questionné sur les négociations qui entourent la reconnaissance des formations parlementaires du Parti québécois et de Québec comme parti d'opposition. Là, on se rappelle que le retour à l'Assemblée nationale, la reprise des travaux, c'est dans 11 jours. On fait des petits X. chaque jour sur notre calendrier, les junkies de la politique. Donc, ça laisse pas beaucoup de temps pour finaliser ces discussions-là de reconnaissance de groupes parlementaires sur les budgets, sur qui va avoir du temps de parole aussi à la période de questions. Donc, il a été questionné là-dessus précisément. Là.
Exact, puisque bon, le Parti québécois a effectué une sortie dans les médias dans laquelle bon, il déplore que les 732 000 $ qui sont offerts à leurs trois députés, ben eux, ils disent que c'est insuffisant. Donc, on a demandé à François Legault ce qu'il en pense et voici ce qu'il a répondu.
Est-ce que le PQ est en train de goûter à sa propre médecine?
Ben, regardez. D'abord, là, c'est Bernard Drainville, qui avait revu la loi, là, le Parti québécois va recevoir à peu près 1,6 million par année du DGEQ parce qu'ils ont eu le nombre de votes qu'on connaît. Maintenant, il y a du travail qui se fait à l'Assemblée nationale, où là, on tient compte quand même du nombre de députés. On a accepté, même si le Parti québécois est, sont seulement trois, que quand même le parti soit reconnu puis que le chef puisse poser ses questions. Mais il faut comprendre, c'est des vases communicants. D'abord, on n'est pas tout seul dans les négociations. Il faut aussi que le Parti libéral, Québec solidaire, soit d'accord. Donc, moi, je préfère que les discussions continuent de se tenir à huis clos. Mais
vous leur reprochez de le faire sur la place publique?
J'allais dire justement, un qui ne veut pas apporter ça sur la place publique, hein, c'est tout en il se mouille pas beaucoup le premier ministre dans sa réponse.
Non, c'est ça. Il ne veut pas blâmer ou condamner le Parti québécois, mais on comprend donc qu'il regrette que les péquistes aient parlé avec des journalistes des négociations qui devraient, selon François Legault, se poursuivre à huis clos. Mais comme je le mentionnais avec justesse, ben là, le temps presse. Alors, ils doivent se parler et s'entendre. Mais bon, ça reste à suivre.
Oh, à suivre, comme tu le dis. Alors, merci beaucoup, Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire pour le journal. Et bon sommet de la francophonie.
Vous écoutez là-haut sur la colline.
Le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charrette, a annoncé dans le cadre de la conférence mondiale de l'ONU sur le climat, la COP27, une nouvelle enveloppe budgétaire qui sera consacrée aux initiatives citoyennes en matière de lutte contre les changements climatiques. Québec solidaire a fait une demande au gouvernement de François Legault de créer un fonds d'urgence climatique pour servir de coussin de sécurité pour faire face aux bouleversements climatiques. Pour en parler avec nous, on reçoit Mme Zaga Mendez, la nouvelle députée de Verdun, qui est titulaire d'un doctorat en développement durable et conservation, donc une spécialiste des enjeux environnementaux. Bonjour, Mme Zaga Mendez.
Bonjour, Mme Montpetit.
Donc, vous avez fait la demande cette semaine, aujourd'hui, pardon, de mettre en place un fonds d'urgence pour justement pour venir soutenir le Québec pour faire face pour l'adaptation au bouleversement climatique. Pouvez-vous nous en dire davantage?
Oui, ces fonds-là consistent à être capables de prévoir les effets des changements climatiques, c'est sur le long terme. On est en train déjà de vivre certains bouleversements ici au Québec et on se rend compte que quand on parle d'un changement au niveau de la température, un changement en termes de précipitations, on va avoir des conséquences et surtout des coûts en ce qui concerne, par exemple, notre économie, des pertes de revenus, mais surtout, on peut avoir aussi des dommages par des catastrophes climatiques. Fait que d'être capable d'avoir un fonds d'urgence climatique nous permettrait de se relever lorsque on vit des situations extrêmes qui vont être causées par les changements climatiques. Et pour ça, il faut à la fois s'attaquer à ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique. C'est une demande autant des municipalités puis dans différentes régions qu'on mette en place une vision qu'on n'a pas au Québec, une stratégie d'adaptation qui est prendre en considération aussi les différents changements qu'on vit. Alors, pour nous, ça passe par prendre cette question au sérieux avec un fonds d'urgence climatique.
Mais pourquoi un fonds d'urgence par rapport à ce que le budget que le ministère, justement, de l'Environnement a ne sert pas exactement à ça, notamment? Je veux dire, il y a déjà de l'argent dans l'appareil gouvernemental, dans le ministère, qui permet de s'attaquer à la question de l'adaptation puis de la lutte au changement climatique puis l'ensemble des bouleversements climatiques.
En fait, il y a de l'argent, mais des fois, ces enveloppes-là ne sont pas, sont un peu... Moi, je peux dire planifier à la pièce. On n'a pas une vision d'ensemble de tous les effets des changements climatiques dans les années à venir. Et de créer ces fonds-là, c'est comme une sorte d'épargne qu'on crée pour les générations futures et pour les effets à venir. Et ça, ça n'existe pas au Québec. Nous, on l'avait présenté lors de la dernière campagne électorale, de penser un peu comme on a un fonds de génération, là, mais on aurait un fonds pour les urgences climatiques, chose qui nous permet de épargner, de garder de l'argent pour les différentes catastrophes qui peuvent arriver et qui peuvent toucher différentes personnes. Puis surtout, ce que j'aimerais remarquer, c'est que quand on parle d'effet des changements climatiques, ce n'est pas tout le monde au Québec, et tout le monde qu'on regarde partout dans la planète, qui est touché de la même façon. Ce sont surtout les personnes qui sont en bas de l'échelle, ce sont surtout les personnes qui n'ont pas les moyens de s'adapter. Puis ces fonds-là vont venir à l'aide de ces familles-là si jamais il arrive, par exemple, des inondations, on a plus des îlots de chaleur ou des feux de forêt. On n'a pas cette vision d'ensemble-là pour le Québec encore. Et donc, on pense que c'est important de créer des fonds pour répondre à cette urgence.
Puis vous l'évaluez à combien, ce fonds-là?
En fait, au tout début, nous, on disait qu'on pouvait mettre à peu près 5 millions de dollars par année. Mais nous, je veux pas insister sur un montant parce qu'il faut aussi faire l'exercice au Québec de prévoir l'ensemble des risques. C'est quelque chose que moi, j'ai jamais entendu le ministre de l'Environnement nous dire combien ça va être quoi les coûts des changements climatiques dans les prochaines années. Je laisserai le travail du ministre de continuer ce travail-là pour qu'on soit capable de déterminer le montant exact, mais ça doit être des sommes qui doivent être quand même importantes pour prévoir tout type de situations à venir.
Parce qu'entre nous, 5 millions par année pour faire l'atténuation des changements climatiques puis l'adaptation, c'est pas énorme. Là, quand on pense, entre autres, à toute la question de l'érosion des berges, comme vous dites, les canicules, les enjeux sanitaires, les îlots de chaleur, il y en a des enjeux climatiques. Ça m'apparaît très peu, 5 millions pour un fonds d'urgence.
En fait, c'était 500 millions, je suis désolée, tu me suis peut-être mal exprimé, c'est 500 millions. Il n'y a pas de problème. On est vendredi, des fois les chiffres, mais c'était à peu près autour de 500 millions par année, en effet. Puis ça peut même être peu comparé à l'ensemble des conséquences qu'il peut avoir. Donc, nous, ce qu'on suggère avec notre proposition, c'est de s'asseoir avec le ministère de l'Environnement, d'être capable de faire une nouvelle prévision des risques qui vont causer les changements climatiques ici au Québec, puis qu'on commence à mettre l'argent de côté pour ça.
Puis je comprends qu'on entre un petit peu dans le détail, mais je veux vous donner l'opportunité de l'expliquer, surtout si vous avez fait cette proposition-là, justement, il y a quelque temps, elle est réfléchie. Qui gérerait, dans le fond, ce fonds? Parce que on se disait, bon, le ministre de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, lui, a accès à certains fonds. Est-ce que ce serait lui qui serait l'administrateur, le gestionnaire qui débourserait, dans le fond, qui délirait les cordons de ce fonds d'urgence quand c'est nécessaire?
Bien, l'objectif, c'est que notre État soit capable d'avoir des fonds suffisants pour répondre aux urgences. Et après, une des choses qu'on a suggérées également quand on parlait des fonds d'adaptation, des fonds d'urgence climatique, c'est de travailler avec les municipalités, parce que ce sont les municipalités déjà qui vivent de façon très, très concrète là, ces effets-là, que ce soit par exemple des débordements d'égouts, quand il y a des grandes pluies, il y a d'autres effets. On parlait tantôt de prendre soin de nos berges et notre littoral. Beaucoup de municipalités puis des MRC ont des plans d'adaptation, voient déjà les urgences sur le terrain. Fait que pour nous, ça va passer par la création d'un fonds oui, gouvernementale de la part du Québec, et que par la suite, on travaille avec les municipalités en partenariat pour trouver comment les fonds vont être répartis puis investis, parce que ce sont les municipalités un peu qui sont la première ligne en ce qui concerne la lutte puis l'adaptation au changement climatique.
Mais pourquoi pas tout simplement, puis je dis ça très respectueusement, est-ce que c'est pas un buzzword d'utiliser fonds d'urgence climatique? Pourquoi pas tout simplement suggérer l'augmentation, par exemple, du budget du ministère?
Ça pourrait être possible, mais avoir un fonds, c'est pas une question de buzzword, parce que c'est quelque chose qui est déjà présent, par exemple, au niveau des...
C'est ça que je veux comprendre, dans le fond. Pourquoi faire un fonds, dans le fond, tu sais, séparé, dans le fond, des sommes qu'a le ministère présentement?
Mm-hmm. Mais en fait, ces concepts-là proviennent aussi des notions, quand on parle des coopérations internationales pour la lutte et l'adaptation au changement climatique, il existe des fonds internationaux pour prévoir l'adaptation, puis on espère que avec la COP qui va finaliser peut-être demain, en tout cas il y a des prolongations là, à la COP présentement, là, il va y avoir même des fonds pour des pertes et préjudices. Ça fait que ce sont des notions à l'international pour créer de l'épargne de différents États pour venir à l'aide ponctuelle lorsqu'il a des dommages causés par les changements climatiques. Fait que, puis cette notion-là, l'important, c'est que c'est l'argent qui est dédié spécifiquement soit à l'adaptation ou à la perte et préjudice. Fait qu'en ce moment, à la COP 27, l'objectif là, des négociations, c'est créer des fonds à l'international, et d'ailleurs, le Québec, on ne s'est pas encore engagé complètement à participer à ce type de fonds à l'international pour que lorsqu'il y a des effets, des catastrophes, et surtout chez les pays qui payent plus les conséquences des changements climatiques, on peut avoir des déversements de l'État, du fonds vers ces États. Et là, si on applique la même notion au Québec, donc on regarde sont où les zones qu'on paye les plus l'effet des changements climatiques, ce sont les zones côtières, on parlait des inondations, feux de forêt, changements dans l'agriculture, bien c'est l'État du Québec qui garde ces fonds-là et par la suite peut les répartir lorsqu'il y a ces urgences.
Donc c'est ça, juste pour qu'on comprenne bien, c'est plus un, ce que je comprends, c'est que c'est pas tant en amont des changements climatiques, c'est pas tant nécessairement pour de l'atténuation, mais quand vous dites fonds d'urgence, c'est vraiment sur le premier niveau du mot urgence, là. Donc, s'il y a une situation X qui se produit, comme vous dites, il y a un feu de forêt, il y a des conséquences par rapport à ça, ou il y a un effondrement de berges. Donc, c'est vraiment dans l'urgence, on peut avoir, il y aurait un fonds que le gouvernement, dans lequel il pourrait prendre une ponction et venir aider une municipalité particulière ou des citoyens particuliers. Donc, c'est vraiment, donc c'est pas en prévision. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est pas en amont, là.
Oui,
c'est
oui,
vraiment dans des situations d'urgence. C'est comme ça que vous le percevez?
Mais ça serait la première fonction pour être capable de répondre aux urgences. Puis de l'autre côté, on ne doit pas laisser de côté tout ce qui est le travail en amont, qui est tout le travail d'adaptation au changement climatique. Et en tout cas, la question climatique, elle est très, très complexe, là. On le sait qu'il y a certains facteurs qui font en sorte que quelque chose qu'on pouvait agir aujourd'hui, finalement, avec un bouleversement de température, ben là, on est plus dans l'urgence. Fait qu'on peut garder une marge de manœuvre, mais oui, d'abord, ça serait de venir à l'aide lorsqu'il y a des catastrophes climatiques. Puis de l'autre côté, ben nous, ça nous sert pour nous aussi, c'est une façon de se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour se préparer au changement climatique? Et d'une façon plus large que juste le fond, là. Comment on est en train de prévoir les effets et la répartition de ces effets-là sur notre territoire et nos populations?
Puis on a vu aussi, Mme Zegamendez, le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a demandé qu'un sommet national sur le climat soit convoqué au Québec pour rassembler tous les acteurs du milieu. Vous, ce que vous souhaitez, dans le fond, c'est ça, c'est que la question de l'adaptation, des atténuations, de la lutte au changement climatique redevienne, en tout cas, ou soit au cœur des discussions à court terme. Je ne sais pas si c'est pour la rentrée parlementaire ou en tout cas, à tout le moins, dans les prochains mois.
Bien, on ne l'a jamais caché, la question climatique, c'est parmi nos priorités, si c'est pas la principale priorité de notre opposition. Alors, Ce qu'il faut aussi, quand on parlait du sommet sur les climats, notre objectif, c'est d'interpeller Monsieur Legault pour qu'on puisse enfin arriver aux cibles gouvernementales de réduction des gaz à effet de serre, de convoquer un sommet sur le climat pour faire en sorte que ce soit, une priorité, et deux, on puisse avoir tous les acteurs autour de la table afin de donner un plan d'action qui fera en sorte qu'on est capable d'atteindre notre cible. Parce que je nous rappelle qu'en ce moment, avec le plan pour une économie verte qui a été présenté par le gouvernement, on rate notre cible, puis on arrive à peine à 50 %. Donc, à un moment donné, il va falloir que tous les acteurs de la société, c'est ça l'objectif du sommet, on se dise, il faut qu'on y arrive, puis le gouvernement, il doit aussi, puis ça c'est une interpellation que j'ai faite à M. Benoît Charrette au début de la COP, de dire, parfait, on va parler de lutte au changement climatique, mais en termes d'atténuation, donc de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, on est en train de rater notre cible.
Mais est-ce que vous pensez justement est-ce que vous pensez que c'est possible avec la reconduction de Benoît Charrette comme ministre de l'Environnement?
Et jusqu'à maintenant, tout ce que M. Charrette a présenté ou a dit dans les derniers jours, on est toujours un peu dans la continuité de ce que le gouvernement précédent a fait. Donc, jusqu'à maintenant, on pense pour nous que si on continue là, avec la même feuille de route, ben on s'en va rater notre cible. Donc, nous, on croit, c'est ça la pression qu'on veut mettre, d'être capable d'avoir un plan concret pour réduire nos GES de façon responsable, parce que on est vraiment dans une urgence climatique, puis des deux, avoir un sommet sur le climat pour être capable d'asseoir tout le monde autour de la table, puis de se dire ben comment au Québec on fait en sorte que la question climatique devienne une priorité pour tous nos secteurs d'économie, tous les secteurs de la société.
Je vous remercie beaucoup, Madame Zaga Mendes, puis j'en profite, nouvelle députée de Verdun, pour vous souhaiter une bonne rentrée parlementaire dans sous peu. Ce sera votre première rentrée parlementaire. Je vous souhaite bon succès.
Bien, merci beaucoup.
Merci, au plaisir.
Au revoir.
Cube Radio.